Un sol majeur.
C'est un valseur né militant de la cause des cités, les deux à la fois. Azouz Begag a un CV qui ne souffre pas la discrimination à l'embauche. Chercheur enseignant en économie et en sociologie, auteur d'une vingtaine de romans dont Un mouton dans la baignoire, qui relate son ubuesque passage dans le gouvernement Villepin en tant que ministre délégué à la promotion d'égalité des chances entre 2005 et 2016. Azouz Begag reste un Français d'origine incontrôlable.
Ben Abdallah Belaouina est-il présent ? Présent, monsieur ? Ah, il se moquait. Ça se voyait bien que j'étais dans la classe, non ? J'étais facilement reconnaissable. Et les autres profs, ils étaient moins vicieux. Au début de l'année, l'un avait demandé quel était le nom de famille dans les deux morceaux. L'autre, la signification. Comme si moi, je me cassais la tête de savoir ce que voulait dire Michel Faure. Voilà. Fils de serviteur d'Allah. Voilà la définition de Ben Abdallah. Fils élevé à la puissance 2 d'Allah. Ça devrait impressionner, normalement. Mais voilà. Comme on n'est pas au pays des djellabas et des mosquées, ça n'impressionne pas le Lyonnais. Au contraire, ça fait rire. Qu'Allah me pardonne. Mais quand j'aurai les moyens et quand je serai plus sûr de moi, je changerai de nom. Je prendrai André. Par exemple. Parce que franchement, faut avouer que ça ne sert strictement à rien de s'appeler Ben Abdallah quand on veut être comme tout le monde.
Azouz Begag, donc lisant un extrait de Béni ou le paradis privé, votre roman paru en 89, c'est en sol majeur. Est-ce que ça a toujours été votre rêve, au fond, vous, l'enfant d'immigré, d'être comme tout le monde ?
Non. Non, je voulais... Justement, parce que j'étais né à la cave de la société, je voulais accéder rapidement au dernier étage.
Au premier, vous voulez dire ?
Au dernier étage, là-bas en haut. Au dernier étage, celui qui est près du soleil, là où ça brille, là où il fait chaud.
Près du roi.
Oui, je voulais me venger, je voulais venger le sort misérable de mes parents. Puisque mes parents étaient analphabètes, je me promis un jour que je serais écrivain. Un homme qui dompterait les lettres de l'alphabet pour en faire une source de revenus.
Vous allez finir marabout de la scène, ou quelque chose comme ça. On va retrouver notre sol majeur, puisque vous jouez aussi une partition musicale dans cette émission. Monsieur Bécaud, Gilbert de son prénom, l'un de nos ambassadeurs dans le monde, c'est l'un de vos choix avec la chanson « Et maintenant » qui est un tube des années 60. Que vous avez découvert comment ?
Très belle chanson d'amour, hein, très belle chanson d'amour. Et très belle chanson de poète aussi. J'ai découvert cela quand j'étais petit aussi, dans les radios. Et puis, c'est la puissance d'évocation des mots, la puissance de ce maintenant. Hein, maintenant, qu'est-ce que je vais faire depuis que je ne suis plus ministre ?
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps ? Que sera ma vie ? De tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti. Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort. Maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer.
Sur la platine dans Sol majeur, Gilbert Bécaud. Et maintenant, une chanson qui ramollit le cœur de notre invité, Azouz Begag, né en 57 à Lyon, de parents algériens débarqués en France en 49, dans la banlieue de Lyon, donc, autant dire dans le bidonville de Villeurbanne. Aujourd'hui, à 52 ans, il incarne une sorte de trait d'union entre le politique et l'artistique. Un trait d'union également entre la culture française et la culture d'origine, mais le trait d'union pose parfois question.
Avez-vous déjà eu le désir de changer de patronyme?
Non, au contraire.
C'est faux, attendez, vous venez de nous lire quelque
chose. Mais oui, quand j'étais petit, oui, c'est vrai. Mais là, depuis...
Et maintenant que vous êtes une star...
Oui, depuis que je suis un adulte, je me suis rendu compte que d'avoir un patronyme qui renvoie à une culture différente, c'est une force. Mais c'est vrai, quand j'étais petit, j'avais peur d'être différent.
Non, mais effectivement, il y a eu un grand écart dans votre vie. À l'époque bidonville, puis à l'époque ministre du gouvernement Villepin. Comment ça s'est passé, la circulation de ce nom, Azouz Begag, dans les couloirs du pouvoir?
Un jour, j'ai eu un grand souci. J'ai déclaré dans une conférence que je ne m'appelais pas Azouz Sarkozy.
Ah oui, on en a entendu parler, oui.
Alors là, ça m'a coûté très cher. J'ai provoqué les foudres du ministre de l'Intérieur de mon gouvernement, qui a cru que je me moquais de lui.
C'était pas vrai?
Ben non, parce que je voulais juste dire à tous les... Il y avait 200-300 personnes, alors que je parlais de l'égalité des chances devant eux. Ces gens, ils me disaient « Oui, mais ta politique d'immigration choisie et non subie, c'est indigne de la France !» Et tout d'un coup, je m'énervais. Ah, il passait simple. Je leur dis « Mais enfin, c'est pas moi qui fais la politique d'immigration, ce n'est pas moi, je ne m'appelle pas Azouz Sarkozy !» Et le matin, du jour suivant, dans les journaux, ce titre faisait la une « Je ne m'appelle pas Azouz Sarkozy ». Alors laissez-moi vous dire que sous mes pieds, ça a chauffé.
La réaction du petit Nicolas, ça a été chaud.
J'ai reçu un coup de téléphone avec quelques mots qui n'étaient pas très poétiques à mon encontre, que j'ai néanmoins écrit dans mon livre « Le mouton dans la baignoire ». Et cela aussi a provoqué des foudres. Mais vous savez, quand on est né dans un bidonville de parents pauvres, on n'a pas peur des foudres.
Donc Nicolas vous appelait Azouz, il arrivait à retenir ce prénom?
Non, il y a un moment, il s'est moqué de mon nom pour le plus grand malheur de mes ancêtres. Il m'appelait Vidéo Begag. C'était pas très
sympathique. Excusez-moi, mais c'est un peu drôle quand même. Hein.
Liberté, égalité, fraternité sont les mots fondateurs de la Déclaration des droits de l'homme. Lesquels de ces trois mots vous fait les plus défaut dans votre vie de tous les jours?
Oui, c'est le mot fraternité parce que je trouve que à l'instar de Martin Luther King, dont le discours de 1967 la faisait résonner, le mot en anglais qu'on dit brotherhood, brotherhood, la fraternité. Je trouve que c'est la responsabilité des hommes politiques et d'un président en particulier d'essayer chaque fois qu'il fait un discours de rassembler les gens, de fédérer les gens. Et c'est le plus difficile parce que séparer les gens, vous voyez, utiliser des boucs émissaires pour diviser et mieux régner. C'est très facile, ça. Quand vous donnez, par exemple, ici en France, ou en Allemagne, ou en Autriche, ou en Italie, comme bouc émissaire aux électeurs.
Vous parlez de vous? Non.
Non, quand vous donnez les immigrés et les clandestins, eh bien, ça marche toujours.
Vous jouez pas de temps en temps un petit peu la carte de la victimisation? Parce que, quand même, vous avez un doctorat en économie. Je peux pas dire d'ailleurs tout votre CV tellement il est impressionnant. Vous avez été chercheur au CNRS, vous êtes retrouvé dans les bureaux de Matignon à discuter le bout de gras avec Chirac. Vraiment, votre parcours, Azouz Begag, symbolise l'ascension sociale et pourtant vous courbez toujours les chines.
C'est-à-dire?
Vous êtes toujours en train de dire « Ah, mais nous, les immigrés, etc. » Non?
C'est vrai?
Oui.
Ah non, je dis que quand un ministre de l'Intérieur, un candidat à l'élection présidentielle, ou que ce soit Sarkozy ou Berlusconi ou les Autrichiens, utilisent la question de l'immigration pour faire peur aux Français. Créer un ministère de l'identité nationale française contre l'immigration, tout le monde en France comprend que c'est contre l'immigration africaine et arabo-musulmane dont qu'il s'agit. Voilà, mon franc-parler, c'est cela. Et je me plains de cela, qu'il y a en 2009 des hommes politiques qui continuent d'utiliser les immigrés dans leur stratégie politique. Cela ne m'insupporte au plus haut point.
Est-ce que vous avez réussi à faire reculer les discriminations au moment où vous étiez chargé de l'égalité des chances dans le gouvernement Villepin?
Je rappellerai même que quand je suis arrivé au gouvernement, tout le monde ne parlait que d'intégration des immigrés et des enfants d'immigrés dans la société française. Et moi, je me suis battu pendant 2 ans pour faire entrer dans le langage politique et social quotidien le mot diversité, le mot égalité des chances.
C'est à vous qu'on le doit.
Oui, absolument. J'ai dit quand je suis rentré au gouvernement, comme Azouz Begag, premier ministre, first minister ever, premier ministre du gouvernement, issu de l'immigration, j'ai dit que derrière moi, il ne pourrait plus jamais ne plus y avoir d'enfants d'immigration dans les... tous les gouvernements. Et c'est exactement ce qui est en train
donc
de se passer.
Donc on vous doit cet effet Obama.
Absolument. On le doit à mon travail, mais on le doit surtout à deux hommes importants qui ont ouvert les portes des enfants issus de l'immigration africaine et maghrébine, et antillaise aussi dans les, en politique, c'est Jacques Chirac et Dominique de Villepin. La gauche française, pendant 25 ans, n'a rien fait en la matière.
Vous avez toujours des petits contacts avec Jacques Chirac ?
Oui, j'aime beaucoup Jacques Chirac, ouais. Parce que, vous savez, avec Dominique de Villepin, quand il s'est agi de dire non à l'intervention américaine et de leurs alliés en Irak, eh ben, il fallait en avoir hein, pour pouvoir se lever et menacer comme ça les plus puissants avec la diplomatie française.
Yaraya, la chanson phare d'une partie du monde arabe, c'est ce qu'on va écouter maintenant sur RFI. Alors, pas dans sa version originale. Vous préférez la version de Rachida à celle de Daman Al-Harachi ? Je ne le dis pas avec l'accent, vous savez le dire avec l'accent.
Daman Al-Harachi, oui. Yaraya. Yaraya, c'est toi qui t'en vas.
Pourquoi est-ce que vous préférez la version occidentalisée de Rachida ?
Parce que j'adore Rachida. Il a une voix rocailleuse, une voix venue des cavernes, mais une voix très... genre Gilbert Bécaud, vous voyez.
Ah oui,
ça va chercher là-bas.
C'est un petit frère des banlieues aussi.
Oui, c'est un Lyonnais aussi, Rachida. Ouais. Je suis son évolution dans le monde de la chanson depuis 25 ans, lui aussi. Et c'est un frère lyonnais. Nous partageons notre identité lyonnaise.
Rachida en sol majeur avec Yaraya, on ne s'en lasse pas quand on s'appelle Azouz Begag et qu'on est traversé autant par le goût du pouvoir, de l'imaginaire, autant par les ouèdes asséchés que par les fleuves de la Loire, quoique dans le cas de notre Lyonnais d'origine algérienne, ce serait plutôt le Rhône, son fleuve, son long fleuve tranquille, ce qui nous amène à suivre le courant des questionnements.
Pour quelles raisons avez-vous choisi de prendre la nationalité française ?
Oui, il y a une vingtaine d'années, quand j'ai décidé de rentrer au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, j'étais toujours algérien, mais il fallait avoir la nationalité française. Et ben, j'ai fait le choix très rapidement, puisqu'en plus, quand on est de nationalité française, on peut aussi avoir un passeport algérien, ce que je n'ai pas.
Mais donc enfin... vous l'avez demandé en 87, vous l'avez obtenu en 89, en tout cas c'est,
oui,
c'est
oui, dans
ce que j'ai comme date. Mais vous l'avez fait pour des raisons pragmatiques.
Oui, absolument.
Pas plus.
Non. Mais c'est important de signaler néanmoins que jusqu'aux années 80, j'étais moi aussi habité par le mythe du retour.
Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce mythe vous quitte ?
Ben, je sais pas, je vais arriver à l'âge de 25 ans, on devient plus réaliste. J'avais rencontré une sirène blonde aux yeux bleus. Je crois que l'idée de faire des enfants et de vivre...
La sirène blonde aux yeux bleus, vous n'aurez pas suivi en Algérie?
Non.
Ça ne pas
s'appelait France. Il y a eu une rencontre entre France et moi, et nous installâmes d'une manière durable dans ce pays. Bon, là, c'est le réalisme qui a prévalu.
France, vous êtes tombé amoureux d'abord de son prénom?
Bah oui, c'est...
Oui, c'est vrai que...
Mais vous savez, ce mot France fait encore rêver beaucoup de gens dans le monde entier. Hein. France, ça ressemble à une terre d'accueil, de liberté. Ça sent bon.
Est-ce qu'il y a malgré tout une petite appréhension, une tension, voire une légère culpabilité à abandonner la nationalité algérienne vis-à-vis des siens?
Au départ, oui. Puis maintenant, quand je vois... Oui, c'était difficile parce que ça ressemblait à une lâcheté, à une traîtrise. C'était celui qui allait prendre la nationalité du colonisateur. Voilà. Mmh. Et puis finalement, quand je vois aujourd'hui le nombre de ceux qui ont l'impression d'avoir perdu leur temps en ne prenant pas cette nationalité française...
Il faut dépasser, selon vous, cette histoire. Oui. Non, mais ça passe.
Ben oui,
excusez-moi de poser des questions portes ouvertes comme ça.
Oui, bien sûr. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir que la France a la capacité, avec ces millions de personnes issues de l'immigration maghrébine, de se fabriquer, à l'instar de Rachid Taha, par exemple, une nouvelle culture, une culture mondialisée, qui séduit beaucoup le reste du monde aussi, et c'est important pour notre culture française.
En même temps, vous êtes un peu une sorte de cow-boy de l'identité. Vous jonglez vraiment entre francité et algérianité. Parfois, dans un sourire faussement naïf, vous dites qu'il y a toujours du polygame en vous.
Oui, parce que je parle plusieurs langues. Je suis polygame, je dis. Ça fait rire les gens.
Vous allez finir comédien. Vous êtes un saltimbanque dans l'âme. Hein. Polygame, alors, sérieusement, sur ce mot.
Eh ben, polygame.
Il y a toujours de l'arabe un petit peu macho.
Et voilà la question qui tue.
C'est le moment justement de nettoyer les clichés. Allons-y.
Quand je parlais justement de cette belle chanson de Gilbert Bécaud, et maintenant que vais-je faire? Parce que c'est une femme qui est partie. C'est pas 3 sur 4 qui l'ont quittée, c'est une seule femme, un seul amour. Il y a un Turc, c'est Nazım Hikmet, je crois, qui est poète, qui disait celui qui a aimé 2 fois. N'a jamais aimé. Parce que l'amour, c'est une seule fois.
Quand vous entendez le chant du muezzin, que ressentez-vous?
J'ai des frissons partout parce que c'est... Je ne sais pas pourquoi. Alors là, c'est une question difficile. J'ai entendu un aveugle une fois dans la grande esplanade de la mosquée de Damas. La mosquée des Omeyyades. Il était tout seul et il déroulait un chapelet devant lui et il récitait des versets du Coran. Je suis resté un quart d'heure devant lui comme ça, plein de frissons. Je ne peux pas expliquer l'irrationalité de cette sensation.
Alors, vous êtes croyant de façon rationnelle ou pas?
Non, j'ai toujours dit que Dieu croit en moi. Et ça me suffit beaucoup, parce que souvent j'entends des gens dire « Moi je suis croyant, non pratiquant. Et vous, monsieur Azouz Begag ?» Alors moi je dis « Je suis pratiquant, mais non croyant. » Cela veut dire que c'est en pratiquant que peut-être un jour je deviendrai croyant. Et quand je monterai au paradis avec ma mobilette, normalement le bon Dieu me reconnaîtra et il ouvrira la porte.
Néanmoins, vous faites le ramadan?
Oui, quelques jours.
Alors comment ça s'organise?
Quelques jours.
Ça, vous êtes à la fois, on va dire, j'ai l'impression, quelque chose comme agnostique, et en même temps, vous faites le ramadan.
Mais
pourquoi?
Je conseille, je voulais, il y a quelques années, exporter la pratique du ramadan, fast, we say that in English, fast. Je voulais l'exporter aux États-Unis, parce que je trouve que pendant un mois, se restreindre, arriver à maîtriser son corps et surtout son estomac. Vu les problèmes d'obésité aux États-Unis, ce serait vraiment
un
argument qui ferait fureur aux États-Unis.
Vraiment,
voilà pourquoi je fais le ramadan.
Vous allez être le deuxième Obama aux États-Unis. Vous avez une notoriété qui vous attend. Est-ce que c'est difficile, malgré tout, en tant que musulman, c'est-à-dire au sens d'appartenir à la communauté, c'est difficile d'avouer qu'on n'est pas croyant?
Non, pourquoi? Moi, je l'avoue à demi, puisque je dis que Dieu croit en moi. C'est-à-dire que j'ai le sentiment... j'ai le sentiment que je suis protégé.
Et
moi,
vous me disiez que vous n'étiez pas mégalo. Eh ben,
non, Dieu croit en moi. C'est-à-dire tout ce que je fais, toutes ces pépites que j'ai rencontrées tout au long de ma vie et qui m'ont fait éviter les pépins. Je fais référence à mon dernier petit livre.
Oui, j'avais plus de pépites que de pépins.
Plus, beaucoup de pépites. Et ben, franchement, je me dis à la fin, si je vais faire l'amalgame de toutes ces pépites, ça va faire un beau collier. Et c'est un caractère divin. Cela. Mais je ne sais pas. Je vous dirai le dernier jour de ma vie.
Je ne sais pas si vous doutez vraiment. Bon, qui c'est ce Don Edwards? Car
c'est
vous
génial.
Vouliez qu'on écoute sa chanson Coyotes.
Yes. J'ai passé 3 mois aux États-Unis, notamment septembre, octobre, novembre. Et le 4 novembre, j'étais devant ma télévision à écouter le discours de Barack Hussein Obama. Souvent, on oublie son deuxième prénom, ça m'énerve. Barack Hussein Obama.
Vous êtes là pour nous le rappeler.
Oui.
Alors, j'écoutais cette
belle chanson de Texan, là, qui raconte cette histoire de coyote, ce dernier coyote qu'il a vu là-bas, et qui raconte la transformation du Texas, celui qu'il a connu, et puis celui après des compagnies de pétrole, celui de l'asphalte, et celui des gens qui aiment trop l'argent.
Et ça, c'est cet univers qui vous fascine, ou c'est la chanson aussi ?
Très belle chanson d'amour aussi.
Ah, quelle âme sentimentale.
Was a cowboy I knew in South Texas. His face was burnt deep by the sun. Part history, part sage, part Mexican. He was there when Pancho Villa was young. And he'd tell you a tale of the old days, when the country was wild all around. Sit out under the stars of the Milky Way and listen while the coyotes howl. They go, ooh-yip, ooh-yip, ooh, ooh-yip, ooh, 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 ooh-yip, ooh, ooh-yip, ooh. Now the longhorns are gone, and the drovers are gone, the Comanches are gone, and the outlaws are gone. Geronimo's gone, and Sam Bass is gone, and the lion is gone, and the red wolf is gone. Well, he cursed all the roads and the old men, and he cursed the automobile. Said, this is no place
for an hombre like I am, in this new world of asphalt and steel.
Then he'd look off someplace
in the distance
at something only he could see. He'd say, all that's left now of the old days, damned old coyotes me.
Coyotes de Don Edwards, avec une petite apparition comme ça d'Azouz Begag, c'est dans votre tonalité. Je pense que vous avez de l'avenir là-dedans. Une partition donc en sol majeur signée Azouz Begag, notre acrobate de l'identité qui jongle entre algérianité, francité, humour et fausse naïveté.
Est-ce que vous pouvez me décrire la manière dont vous avez meublé votre maison?
Oui, d'une manière très simple. Alors là, je ne pourrais jamais vous faire visiter mon appartement à Lyon parce que j'ai honte de moi-même. Je déteste ranger. Alors, j'empile tout par terre, et comme j'habite seul et que je n'ai pas de femme de ménage, je fais tout seul, c'est-à-dire je ne fais rien.
Vous êtes un homme d'intérieur, pourtant il y a une maîtresse de maison très française, non, dans les parages?
Non, elle est partie depuis fort longtemps.
Elle vous a quitté?
Oui.
Ah, d'accord.
Elle est partie vivre sa vie.
C'est un célibataire, alors.
Elle m'a laissé la table à repasser. Et comme je ne sais pas repasser, et qu'elle n'est jamais repassée non plus.
Et alors, cette maison, elle a perdu de son cachet, puisque madame est partie?
Ouais, c'est maintenant une maison où je travaille, et j'ai conservé, stocké toute ma mémoire. C'était très important pour moi.
Un peu d'orientalisme, des tableaux de la croix,
non,
des tables basses?
Non, vraiment, il y a surtout des tableaux de jeunes talents, oui, un peu d'orientalisme. C'est vrai, j'ai une copine, Souad, qui est peintre à Lyon, et à qui j'ai acheté beaucoup de tableaux, c'est vrai, un peu d'Orient. J'ai une très belle affiche aussi du centenaire de l'Algérie, 1900. Du siècle dernier, c'est une très belle affiche d'Algérie qui occupe une grande partie du mur qui fait face à l'entrée principale.
Pour vous, rentrer à la maison, c'est où?
Ah, c'est une bonne question. C'est rentrer à Ithaque. Et là, je vous renvoie au livre de Homère, l'Odyssée. Pour moi, la maison, c'est partout. Et j'essaye de faire en sorte que ma maman, qui reste encore vivante, qui a 90 ans, qui habite à Villeurbanne, ce soit elle qui incarne ma dernière maison.
Vous vous sentez encore chez vous dans les quartiers difficiles après avoir endossé un costume de ministre à Zouzbek?
Partout où je vais, il y a des pauvres, que ce soit en Afrique, en Inde ou au Brésil, je me sens chez moi.
Merci à Zouzbek. Je rappelle que vous venez de sortir Dites-moi bonjour, un récit qui paraît chez Fayard. Bonne route et à bientôt. Caroline Fillette, Marc Delouvrier, Laurent Salani, Yasmine Chouaki pour En Sol Majeur, une émission à retrouver sur le net rfi.fr ou à podcaster du lundi au vendredi. We'll be right back.